C'est pas très très beau. Ça ressemble à des machines d'Olivetti. On distingue les deux trucs, on distingue la crémaillère. Donc ce que je sais pas, mais je finirai par le savoir, si c'est pas une marque d'Olivetti, si c'est une copie d'Olivetti ou si c'est une marque d'Olivetti, je ne sais pas. Voilà. Alors on peut faire maintenant des comparaisons des actionneurs. En comparaison, finalement, il y a eu deux grandes écoles. Il y a eu l'école américaine, qui consistait à faire des machines non imprimantes avec un afficheur à relativement grands pas, et puis les machines européennes, c'est-à-dire essentiellement les Suisses et puis les Italiens. Et donc les machines américaines avaient des actionneurs rotatifs, les machines européennes avaient des additionneurs alternatifs, et c'était... Évidemment, vous trouvez sous la marque Monroe ou etc. les deux machines, mais ces fabricants avaient des usines aux États-Unis et en Europe, et ils fabriquaient en Europe les machines de style européen qu'ils importaient aux États-Unis pour les vendre sous leur nom. De même, les opérins importaient des États-Unis en OEM les machines américaines, ce qui marquait Olivetti, etc. Donc chacun avait dans ses catalogues les deux, mais elles étaient fabriquées de part et d'autre de l'Atlantique. Je pense, moi, qu'ils avaient d'un côté les écoles d'ingénieurs qui apprenaient une machine, puis de l'autre côté les autres... qui apprenaient l'autre machine. Oui, il était plus facile d'acheter la machine américaine puis changer son nom que de lancer toute la fabrication. Oui. Alors, donc, les unes ont un pas important du style 10 mm entre deux chiffres. Celles-ci ont pas très resserré. Elles sont très compactes. C'est le pas d'impression, mais naturellement, on peut pas lire... un viseur avec un pas de 3,5, enfin il serait vraiment très petit, il faudrait être très très proche. Machine large et machine étroite, donc longue, parce qu'il fallait bien... Donc on a des machines étroites et très longues, et puis on a des machines au contraire très, très larges et peu longues. Clavier complet, clavier réduit, parce qu'on n'a pas la place ici sur la largeur de mètre. Chariot apparent, chariot interne. Le chariot peut être interne ici parce que le pas étant petit, il se déplace relativement peu. Donc il est contenu à l'intérieur de la machine. Bon, naturellement, la machine n'est pas plus grosse à l'endroit où il se déplace, mais il y a sur le côté le moteur, de l'autre côté, etc., ce qui fait qu'on a la largeur. Viseur et ici imprimante. Grande précision, jusqu'à 20 chiffres. On ne fait pas avec ces machines-là plus de 12 chiffres. Enfin, on pourrait, mais on ne les a pas fait. Pas d'arrondi, éventuellement l'arrondi automatique. Alors, les Américains appellent ça le quarter cent ou un truc comme ça, c'est-à-dire les choses qui sont en deçà du centime. Pardon ? Le quart de cent. Oui, je ne sais pas très bien. Donc, effectivement, il y avait des machines qui vous arrondissaient automatiquement avec les règles des banques, c'est-à-dire c'est toujours favorable à la banque. Je ne sais plus très bien. Non, mais le 5 étant équidistant du... Enfin, je ne sais pas très bien. C'est pas tout à fait symétrique. Pas d'arrondi, etc. École américaine et allemande, école italo-helvétique. Soustraction par inversion de rotation, soustraction par complément à 9. Grande vitesse de rotation, vitesse un peu plus faible, mais finalement rattrapée. Multiplication par addition décalage, multiplication réduite. Quatre opérations. Compteur de tours explicite et l'autre compteur de tours caché, parce que celle-ci n'a pratiquement pas... pas de viseur, donc le seul viseur, c'est l'impression, donc tout ça existe à l'intérieur, mais est caché. Donc on ne voit qu'un seul résultat, puis il y a des petites flèches vous indiquant ça c'est le multiplieur, ça c'est le multiplicant, ça c'est le résultat, ça c'est... Et puis pour la division, on a toujours le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. Même si le reste vaut 0, on l'affiche quand même, 0, etc. Alors que l'eau... Voilà. Là, c'est moins intéressant. Pardon ? Chas, qui était un grand fabricant de machines, avait fait des exemples de cycles qui se passaient en un cycle. Alors, ce qu'il voulait, c'est vendre son truc. Enfin, il disait, bon, ben, la machine marchande, c'est continu. Donc, dans un sens, on fait la somme et les retenues simultanément. Dans l'autre sens, on fait la différence et les retenues simultanément. Les machines à hélice, eh bien, elles font d'abord... les additions modulo 10, puis ensuite la retenue R1, R2, etc., R5. R1, c'est la retenue des unités vers les dizaines, des dizaines vers les centaines, des dizaines vers les centaines, des centaines vers les milliers, etc. Alors ça, c'est un peu un inconvénient quand on veut faire les deux choses. Et donc les machines comme la Monroe ou comme les Audner ou etc. perdent du temps parce que quand on fait une addition, il y a une phase inactive suivie d'une phase d'addition modulo 10 qui est commune à l'addition et les soustractions suivie d'une phase de propagation de retenue, ou bien quand on fait la soustraction, il y a une phase inactive suivie d'une phase de soustraction modulo 10 suivie d'une phase de propagation de la retenue. Donc on a une double hélice, mais en fait on ne hélice qu'une des deux, mais l'autre apparaît aussi. Donc pendant qu'on est dans l'hélice d'addition, eh ben, l'hélice de soustraction ne sert à rien réciproquement. Alors ce qu'avait proposé Chasse, c'était tout à fait intéressant. Il a dit, on va faire un petit levier qui va complémenter l'hélice de 180 degrés, suivant qu'on fait une addition ou une soustraction. Donc le point de départ ne sera pas le même. Donc quand on fait une addition, on fait d'abord la somme modulo 2, puis ensuite on fait les retenues de l'addition. Et quand on fait une soustraction, on fait d'abord la somme modulo 10, et puis les retenues de soustraction. On voit que le point de départ de l'un et de l'autre sont décalés de 180 degrés, et puis les points d'arrivée aussi. Donc quand on active le levier multiplication-division, on fait tourner tout le mécanisme de 180 degrés dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Bon, écoutez. Je propose éventuellement de finir là, à moins que vous soyez. Je peux continuer à faire les multiplications, divisions, puis racines carrées. Oui, alors oui, parce qu'il est. Il est d'abord, il n'y a qu'une seule machine qui a fait la racine carrée. La racine carrée était, par les gens qui font des calculs, extrêmement utilisée. Donc, dans tous les manuels d'utilisation des machines, il y a l'algorithme expliqué en long, en large, l'algorithme de racine carrée qu'on fait à la main. Il y a finalement deux algorithmes de racine carrée. L'un qui est celui qu'on apprend à l'école ou qu'on apprenait à l'école. Et puis, l'autre qui est beaucoup plus mécanique, qui ne demande pas de réfléchir, qui demande uniquement de tourner la manivelle. Mais il y a plus de tours de manivelle, tourner la manivelle jusqu'à ce que ça fasse gling, et tourner la manivelle dans l'autre sens. Et donc on peut passer à ça, oui. Ah, vous la voulez? Vous la voulez, la multiplication directe de Boolée? Choix, choix, choix entre Boolée et la racine carrée. Alors la machine de Boolée, je l'ai mise ici, parce qu'elle est au CNAM. Parce qu'elle est au CNAM. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors pourquoi les chemins de fer l'ont-ils utilisé? Parce que la famille de Léon Boolée fabriquait les machines à composter les billets et à imprimer les billets. Donc il fallait multiplier le nombre de kilomètres parcourus par le prix au kilomètre ou que sais-je encore. Et donc c'était fait avec des machines. Donc il faisait aussi les machines